Alors, j'ai commencé donc il y a environ 2 mois à lire avec vous l'épître de la première lettre, donc la première épître de Pierre. Donc, je vais continuer, hein, puisque j'ai dit que j'allais prendre cette épître et la lire en entier avec vous, et puis essayer de voir ce que le Seigneur nous dit à travers cette lettre. Donc, je vais continuer avec vous. Nous allons d'abord lire le chapitre 2, donc aujourd'hui. Donc, alors, chapitre 2, 1 Pierre 2, donc il y a 25 versets dans ce chapitre 2. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, j'ai oublié de passer, car il est dit donc dans l'Écriture, voici, je reprends, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Alors, verset 1. Rejetant toute méchanceté. Chasser le naturel, il revient au galop, dit Destouches, un dramaturge français du XVIIIe siècle, dans une pièce intitulée « Le Glorieux ». Il a apparemment repris cette maxime d'un poète latin, Horace, qui a vécu avant l'ère chrétienne, et qui disait « Chasse la nature à coups de fourche, elle reviendra toujours en courant. » En venant à Jésus-Christ, n'oublions pas que nous avons été régénérés. C'est ce que nous avons vu dans le premier chapitre, au verset 3. Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, 2 Corinthiens 5, 17. Et aux Galates, il dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Êtes-vous de nouvelles créatures? Si c'est le cas, vous n'êtes pas étonné que Pierre, comme Jacques et Paul, vous demande de rejeter tout ce qui est de votre ancienne nature. Jacques 1, 17, 18 et 21. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il s'agit de faire en sorte que le naturel ne revienne pas au galop. L'Esprit de Dieu nous est donné dans ce but. Éphésiens 4, 20 à 32. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Rejetant, c'est un acte volontaire, déterminé. Si le naturel revient, nous devons le rejeter, le chasser, sans cesse, inexorablement. Vous avez certainement déjà entendu des phrases comme celle-ci : « Je suis comme ça, faut m'accepter comme je suis. » Pour des personnes non régénérées, c'est logique. Elles suivent leur ancienne nature. Mais nous sommes appelés à laisser la nature de Christ grandir en nous. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le psaume 119 au verset 131 dit « J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. » Quand il a faim, un bébé ouvre la bouche à l'approche du biberon. Il est avide. Si on ne lui donne pas, il s'impatiente. En règle générale, bien sûr. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. C'est sa lecture qui nous fait croître. Dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, verset 18, l'apôtre nous redit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Le lait, c'est toutes les connaissances de base de la foi chrétienne. La naissance, la mort, la résurrection de Christ, le salut obtenu par la foi dans l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix. Toutes ces vérités doivent être bien assimilées pour que l'ossature du chrétien se forme. C'est une étape nécessaire qui s'appuie sur la connaissance de paroles bibliques inscrites dans notre mémoire et qui nous enseigneront toute notre vie. Mais les parents s'inquiéteraient si leur enfant restait un bébé trop longtemps. Paul parle avec un ton de reproche aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 2. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 5, verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous commençons donc notre vie chrétienne avec le lait de la parole de Dieu et nous poursuivons avec la nourriture solide qui vient toujours de la même parole de Dieu. Tout au long de notre vie, nous aurons besoin d'approfondir la connaissance de la pensée de Dieu. Il y a des notions qui peuvent être difficiles à comprendre, comme le dit Pierre lui-même à propos de l'enseignement développé par Paul. En 2 Pierre 3, 15 et 16, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. » Verset 3, si vous avez goûté. Vous le savez, quand on a goûté un aliment et qu'on l'a apprécié, on aura envie d'en manger de nouveau. On forme le goût des enfants en leur donnant un peu à la fois de nouveaux aliments pour qu'ils finissent par les aimer. Frères et sœurs, vous avez goûté à l'amour du Seigneur, à sa bonté envers vous. Vous avez donc envie de goûter encore et de vous nourrir de sa parole. Mais pour celui qui n'a pas goûté, ne jugera pas utile de lire la parole de Dieu régulièrement. Il lui manque cette expérience personnelle. Goûtez l'amour de Dieu, goûtez le Seigneur Jésus. Dans le psaume 34, verset 9, on lit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » En nous nourrissant de sa parole, nous apprenons à connaître le Seigneur. Nous nous approchons de lui. Il devient de plus en plus familier, proche de nous. Ensuite, l'apôtre nous parle de pierre vivante. J'ai mis au singulier et au pluriel. Pierre vivante. Pierre introduit ensuite de nouvelles notions. Pierre vivante, construction, édifice, maison spirituelle. Nous ne sommes pas appelés à vivre la vie chrétienne seule, de façon individualiste. Jésus l'avait dit à Pierre, justement, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Nous nous édifions, nous construisons ensemble une maison spirituelle. Édifier, c'est construire. Et quand on parle de quelque chose d'édifiant, c'est quelque chose qui est bon, qui fait du bien, qui construit notre âme, notre être. C'est pourquoi nos propos, nos paroles doivent être édifiantes. Nous devons nous édifier les uns les autres afin que l'Église de Christ se fortifie et grandisse. Détruire, c'est très facile. Un coup de masse, terminé. Mais construire demande plus d'efforts, de persévérance et d'attention. Même si nous avons lu que c'est Jésus qui bâtit son Église, Pierre nous dit que nous sommes aussi des pierres vivantes, donc pas mortes, pas inertes, mais actives. La construction harmonieuse de l'ensemble dépend aussi de nous, de notre bonne volonté, de notre disponibilité, de notre persévérance à œuvrer dans la maison de Dieu. L'édifice doit être bien coordonné. Nous devons travailler en accord sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Éphésiens 2, 20 à 22 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Un temple saint, une habitation de Dieu en esprit. Matthieu 18, 20, vous le connaissez par cœur, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » En sommes-nous toujours conscients, lorsque nous nous exprimons dans l'Église, sommes-nous toujours conscients que Jésus est au milieu de nous? Si nous sommes une nation sainte, une race élue, un peuple acquis, c'est dans un but, pour un but précis. L'apôtre nous le dit dans ce chapitre, « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est le rôle de cette construction, de cet édifice de l'Église. C'est le rôle des enfants de Dieu, de cette race élue, porter témoignage de l'amour de Dieu. L'Église est le corps de Christ. Elle est la partie visible de Christ sur la terre. Verset 12, « Ayez une bonne conduite. » Ce que nous sommes, nous l'avons déjà dit, ce que nous sommes ou que nous devons être dans l'Église, nous devons l'être aussi au milieu des païens. Notre vie rend témoignage de l'amour, la vérité, la lumière, la sainteté de Christ. Nous n'avons qu'une seule vie, pas une double vie. Ce que nous sommes à l'intérieur de l'Église, nous le sommes à l'extérieur. Romains 12, 17 à 18, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et en 1 Thessaloniciens 4, 11 à 12, l'apôtre exhorte à mettre notre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Ayez une bonne conduite, nous dit l'apôtre. Versets 13 à 17, « Soyez soumis à toute autorité. » C'est un sujet qui peut faire polémique, j'ai bien conscience. Cependant, il est devant nous et il faut bien l'aborder. C'est Pierre qui dit cela. Lui qui était une autorité de l'Église primitive. Mais ce n'est pas à lui qu'il demande d'être soumis. C'est aux autorités humaines, civiles, rois, gouverneurs, etc. Encore une fois, Paul enseigne la même chose que Pierre. Tite 3, 1 et 2 rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Pourquoi ont-ils dit cela, les apôtres ? Ben parce que la tentation était grande pour les premiers chrétiens de dire « Nous sommes le peuple de Dieu, Christ est notre roi, nous lui obéissons et nous ne dépendons plus des autorités humaines. » Il y a eu des chrétiens à cette époque qui ont parlé dans ce sens-là. Mais les apôtres les ont ramenés à la bonne compréhension des choses. Les apôtres savent que les autorités humaines sont établies par Dieu. Et le prophète Daniel nous le disait déjà. Daniel au chapitre 2, versets 20 et 21, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est toujours Dieu qui continue à le faire. Même si nous sommes en démocratie et que nous élisons notre président, c'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. Et nous, nous pourrions dire aujourd'hui les présidents. Alors, je sais que certains répliqueront, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pierre le sait bien. C'est lui qui a prononcé cette phrase. Il était en première ligne. À qui a-t-il dit cela ? Il a dit au Sanhédrin, donc aux hommes religieux qui étaient censés parler de la part de Dieu. Mais ils avaient interdit aux apôtres de prêcher au nom de Jésus. Il les avait mis en prison. Un ange les a libérés et les apôtres sont allés prêcher dans le temple. Et ils ont de nouveau dû rendre compte de leurs actes. C'est pourquoi Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. » Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. La désobéissance, entre guillemets, des apôtres a été de continuer à prêcher la résurrection de Jésus-Christ et proclamer le salut en son nom. C'est aussi ce qu'ont fait des millions de chrétiens au péril de leur vie. C'est l'exception à cette règle. Soyez soumis à toute autorité. Mais n'oublions pas ce qui est entre les deux virgules. À cause du Seigneur. C'est à cause du Seigneur que nous sommes soumis. Parce que lui aussi a été soumis. Nous suivons son exemple. Alors nous pourrions prendre d'autres extraits, mais cela prolongerait trop ce message. Par la grâce de Dieu, nous pouvons encore témoigner de notre foi. Nous pouvons nous réunir librement. Alors restons en paix. Et continuons à le louer et le glorifier. Et si, un jour, on nous interdisait de prêcher le nom de Jésus-Christ, alors nous devrions dire « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Mais nous n'en sommes pas là, actuellement. Les derniers versets nous invitent à appliquer cette règle de soumission dans le cadre de notre travail, parce que Christ a souffert et que nous devons suivre ses traces. Et les versets 22 à 25 nous dépeignent l'exemple suprême, celui de Christ. Mais ce passage, je vous laisse le méditer vous-même.